Bien, chers amis, nous allons entamer cette rencontre consacrée à deux chapitres d'Ézéchiel qui abordent le même thème avec quelques variations. Si vous avez eu l'occasion de lire ce chapitre 3 et ce chapitre 33, vous serez rendu compte que les thèmes sont analogues et qu'il y a même deux passages qui sont à peu de choses près les mêmes. Je voulais d'ailleurs indiquer sur au chapitre 3 sont les versets 17 à 19 et au chapitre 33 les versets 7 à 9 avec très peu de variantes dans le texte hébreu. Compte tenu du temps que nous avons, on va peut-être juste réduire un petit peu le chapitre 3 au verset 4 à 21, mais les versets suivants ne posent pas spécialement de problème, simplement c'est un peu une thématique différente. Donc pour que nous ayons peut-être le temps d'aborder les sujets sans être trop superficiels, on va peut-être s'en tenir au verset 4 à 21.
C'est de la vôtre,
ça. Ça c'est à moi, oui.
Ah bon.
Vous n'en avez pas besoin. Voilà. Je propose qu'on fasse comme les fois précédentes, c'est-à-dire qu'on prenne les versets les uns après les autres, ou du moins par séquence, plutôt que de tout lire d'une seule fois. Donc je vous ai mis en français la version Louis II, et il y aura lieu de revenir un peu sur cette traduction qui présente ici ou là des petites imperfections notables. Ce coup-ci, je vous ai mis Louis II parce que, bon, d'une part, Louis II est la version à laquelle nous sommes le plus habitués, et c'est celle qui présentait justement des traductions, je dirais, un peu idéologiques, sur lesquelles il est toujours bon de s'arrêter, de revenir, pour voir comment un parti pris de traducteur peut faire des décalages, disons fâcheux, au texte biblique. Bien, sans plus attendre, entrons dans le texte. Alors, on va commencer par le chapitre 3, avec une formule classique, « Fils de l'homme ». Bon, c'est pas la peine de trop s'étendre sur cette dénomination, qui a deux intérêts majeurs. Le premier, c'est de créer en fait un précédent par rapport à l'appellation, à une des appellations utilisées pour Jésus plus tard dans les évangiles. Jésus qui acceptera le titre de fils d'homme ou de fils de l'homme. Une expression que l'on trouve également chez Daniel, et c'est d'ailleurs probablement Daniel qui est utilisé par les évangélistes comme point de référence, et qui n'a pas d'autre ambition que d'inscrire cette personne dans l'humanité. Fils d'homme, en hébreu, ça veut dire homme. J'avais peut-être eu l'occasion de vous le dire, si vous vous promenez en Israël, vous verrez certains carrefours dangereux, que quand on veut dire qu'il y a eu tant de tués à ce carrefour, il y a tant de fils d'homme qui ont été tués. Donc c'est une expression on ne peut plus classique, comme Adon, qui donne « seigneur », ça veut juste dire « monsieur » de nos jours. Donc on peut à la fois garder le côté un peu spécifique, mais aussi l'inscrire dans quelque chose de très ordinaire. Du coup, il me dit « fils de l'homme », c'est une façon de s'adresser à quelqu'un qui est pleinement inscrit dans cette communauté humaine, et c'est peut-être une façon d'avoir un propos général qui dépasse la frontière d'Israël et qui peut nous concerner là, maintenant, aujourd'hui encore. Fils d'homme, ça peut être vous, là. D'ailleurs, il est probable que ce soit vous, là. On le verra tout à l'heure. Donc, va vers la maison d'Israël. Et dis-leur mes paroles. Donc, on est dans un registre très classique d'injonction faite à un prophète. Le prophète, c'est celui qui porte la parole, hein, c'est le porte-parole, c'est celui qui profère, qui transporte vers, et donc là, il transporte vers la maison d'Israël. Insidieusement, Ce verset crée une sorte de clivage dans le lecteur. Alors, vous n'y êtes peut-être pas forcément sensible, mais je viens de dire que fils d'homme ou fils de l'homme, ça inscrivait pleinement dans l'humanité. Et là, le fait de commander d'aller vers la maison d'Israël, c'est comme si en fait il était étranger à la maison d'Israël, alors qu'en fait il en fait aussi partie. Eh bien, il me semble que nous avons là un paradoxe qui correspond bien à la tradition biblique que l'on retrouvera notamment dans l'évangile de Jean, avec la prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17. Le fait d'être dans le monde sans être du monde, voyez, ou alors dans l'épître aux Hébreux, d'être en permanence voyageur ou résident temporaire, c'est-à-dire cette perspective nomade, on y est mais on n'y est pas. Les mystiques s'y retrouveraient dans cette formule, dans cette intuition qu'on ne trouve jamais un lieu où résider, qu'on n'est jamais vraiment de ce lieu-là, qu'il y a toujours un appel vers, et que ça pourrait confiner à une forme d'instabilité, mais c'est plutôt un encouragement au nomadisme contre le sédentarisme.
Je vais interroger sur un parallèle.
Oui.
On voit plus l'appellation. Il y a encore fils d'homme,
oui,
mais aussi fils de Dieu.
Oui.
Comme appellation. Et est-ce que ça désigne la même catégorie de genre ? Est-ce que fils de Dieu, est-ce que nous sommes tous des fils de Dieu ? Est-ce que dans Israël, dans Jésus, les gens étaient fils de Dieu ou est-ce que c'était réservé uniquement à Jésus comme appellation, comme désignation?
Alors, c'est d'abord utilisé pour, disons, David. Et c'est la référence à David qui va être mentionnée par Jésus, en disant, mais au fond, pourquoi se priver de cette appellation alors que David a eu un comportement de fils de Dieu ou lui-même a pu être considéré comme un fils de Dieu? Il y a un ou deux psaumes qui vont jusqu'à dire que vous êtes comme des dieux. D'ailleurs, c'est ce psaume-là qui avait été utilisé comme surtitre du film concernant les moines de Tibérine. Hein, vous serez comme des dieux, vous êtes comme des dieux. Donc c'était une expression assez inhabituelle quand même et qui a choqué l'entourage de Jésus, qui a même était un prétexte pour le condamner, c'est-à-dire Jésus qui se fait passer pour Dieu, hein, puisque fils de Dieu, c'est Dieu, en fait, lui-même. Comme fils de l'homme, c'est homme. Il n'empêche que Jésus nous met sur la piste d'une humanité qui, lorsqu'elle est vraiment épanouie, ou en plénitude, peut se dire comme étant divine. Et c'est la tradition orthodoxe, au sens de l'Orient, qui va reprendre cela en parlant de la divinisation de l'homme. Le baptême, par exemple, dans la tradition orthodoxe, conduit à la divinisation de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui accède à sa pleine humanité. Souvent, ici en tout cas, on dit l'homme tel qu'il est espéré selon Genèse 1, par exemple. Et c'est cette idée que Dieu permet de désigner ce moment où l'homme est vraiment lui-même. Nietzsche le dira à sa manière, un peu avec cette formule, je ne sais pas si elle est vraiment de Nietzsche, mais « deviens qui tu es », par exemple. Nike aussi utilise cette formule. Il y a des théologiens protestants libéraux qui vont justement dire que Dieu désigne cette capacité de l'homme à être plus que son état initial, par exemple. L'existentialisme confine un peu à cela aussi, dans une autre manière. Est-ce que ça répond un peu à ta question ? Non. Non, je sens que non. Je sens que je t'ai déçu.
Ça serait dévié de ce que...
D'accord.
Mais j'aurais effectivement une autre question à poser.
Très bien. Alors, je t'entendrai sur ce sujet un autre jour, comme dirait Pilate. Il y a une raison pour laquelle aussi il y a ce clivage, ce sentiment que le prophète ne fait pas vraiment partie du peuple, et ça sera repris là aussi dans la bouche de Jésus, c'est que nul n'est prophète en son pays. Et en fait, c'est le sens de ces versets qui viennent. Nul n'est prophète en son pays, et on va le comprendre avec l'indication, en quelque sorte, une parole qui prévient le prophète de ce qu'il attend. La traduction là, que vous avez de Louis II, elle est assez claire, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, mais si on prend le texte hébreu, c'est un peu plus métaphorique, puisqu'on parle de peuple profond des lèvres et pesant de la langue. Profond des lèvres et pesant de la langue. Alors, comme toute métaphore, c'est ambigu. Qu'est-ce que ça pourrait signifier d'être profond des lèvres et d'avoir la langue pesante? Alors, du mal à s'exprimer. Mais vous voyez, ici, second a tendance à dire, au contraire, c'est intelligible. Oui, mais justement, ils disent que ce n'est pas un peuple ayant un langage obscur. Donc, ce n'est pas un... Voilà.
Ce n'est pas... Mmh.
Bon, à voir plus tard, peut-être. En tous les cas, sachez que c'est pas un peuple donc profond des lèvres, pesant de la langue. On peut peut-être se dire que quand on a la bouche pâteuse, il est quand même difficile de s'exprimer. Quand on a la langue lourde, en quelque sorte, elle a du mal à faire son petit travail de mobilité linguistique. Bon. Donc, que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Et le verset suivant, le verset 6, accentue encore cette bizarrerie. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Sachant que le verbe « shamar », ça peut signifier aussi « comprendre ». C'est écouter et comprendre. Alors, est-ce que ces deux petits versets peuvent vous faire penser à un autre épisode biblique? Le fait qu'il y a un peuple, on comprend, plusieurs peuples avec des langues incompréhensibles. Mais en fait, c'est Babel. Enfin, je veux dire, il y a peut-être une évocation de Babel, avec du coup une explication de ce qu'est Babel. C'est souvent, on comprend Babel, donc c'est l'humanité qui veut créer une tour, en quelque sorte atteindre Dieu, se faire un nom. C'est l'époque où il y a une seule langue, et Dieu voit cela selon le texte, et puis il disperse les personnes, et ils ont des langues différentes. Et on comprend souvent ça comme une punition. La multiplicité des langues, c'est une punition parce que Dieu voit d'un mauvais œil que les hommes veuillent s'élever à sa hauteur. Mais la multiplicité des langues, en fait, peut être envisagée comme une bénédiction. Et pourquoi? Justement, en fonction de ce qui est dit là. C'est qu'on peut parler la même langue et en fait ne pas se comprendre. Et des fois, on se comprend mieux quand on parle avec quelqu'un qui ne parle pas notre idiome. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait l'effort d'essayer de le comprendre. Et il se peut très souvent que nous parlions avec le même vocabulaire, mais qui n'ait pas le même sens, déjà. Et puis surtout, avec des discussions où on ne prête pas beaucoup d'attention à ce que dit l'autre. Alors que forcément, quand quelqu'un parle une langue étrangère, il y a un effort, voilà. Il y a une tension. Et peut-être qu'une des explications de récit de Babel, c'est celui-ci. C'est que, en donnant des langues différentes, le texte biblique dit qu'il est donné à l'homme l'occasion de pouvoir avoir l'occasion de faire le voyage jusqu'à l'autre, et donc de rejoindre l'autre dans son univers, dans sa culture, et donc de le comprendre. Alors qu'il y a une sorte de paresse quand on est dans le même univers culturel qui peut en fait créer des barrières, parce que du coup on ne cherche même pas à se comprendre. On croit parler la même langue et en fait on ne se comprend pas. Des actes des apôtres ? Alors ça rejoint à mon avis exactement cela, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre le récit de Pentecôte et la tour de Babel, avec peut-être un passage par ici. Le récit de Pentecôte, c'est lorsqu'on dit que le Saint-Esprit descend sur les apôtres, hein, donc on est après Pâques, et il descend sous la langue de langue de feu. Et les langues, c'est bien fait pour s'exprimer. Et le récit dit qu'il y avait là beaucoup d'étrangers et que c'était un peu stupéfait d'entendre les apôtres parler dans leur propre langue. Donc les apôtres ne parlaient pas une langue divine qui serait une métalangue ou un métalangage réservé aux initiés, mais ils avaient la capacité de se faire comprendre dans la langue des personnes qu'ils rencontraient. Donc le don des langues, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans l'acception populaire, le fait de pouvoir apprendre les langues étrangères assez facilement, en quelque sorte. Et du coup, il y a une sorte de prolongement du récit de Babel dans le livre des Actes. Oui ?
Est-ce qu'on n'a pas l'impression que dès le départ, Israël était présenté comme un peuple différent des autres, le peuple qui comprend, il n'a pas la langue pesante.
Oui, mais qui ne comprend. Enfin, qui n'écoute pas et qui ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il est différent des autres, je ne sais pas. Peut-être qu'un prophète au sein de Babylone aurait un peu les mêmes consignes. Quand je disais « nul n'est prophète en son pays », c'est vrai en Israël et c'est vrai Paris 1er. Le nombre de fois où on dit des choses et les gens comprennent l'inverse, ou comprennent mal, ou n'écoutent pas, ou n'entendent pas ce qu'ils devraient écouter.
Le verset 6 est quand même assez clair. Hein.
Oui.
Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue intelligible que je t'envoie, mais c'est vers Israël.
Oui.
Donc il ne fait pas partie de ces nombreux peuples.
Oui. Et il faut aller jusqu'au bout de ce verset 6 qui dit « Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient et donc ils te comprendraient ». C'est l'exemple type de Jonas. Jonas qui est envoyé pour prophétiser à Ninive, et ce sont des étrangers, hein, et ils refusent. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils refusent ? Il y a une hypothèse, c'est qu'ils le refusent parce que ce sont des étrangers et qu'il n'a pas envie que ça aille bien pour ces étrangers. Bon. C'est l'hypothèse notamment de Daniel Siboni et d'autres. Et quand il y va, en fait, sa crainte se réalise, c'est-à-dire que le peuple se convertit. Ils écoutent ce qu'il dit. Et ça, ça le mine. Et il est fâché. Il est fâché parce que les étrangers sont sauvés. Bon. Et c'est l'exemple type de « nul n'est prophète en son pays ». Et c'est qu'effectivement, une voix étrangère porte parfois davantage qu'une voix familière qu'on n'écoute plus vraiment. C'est peut-être comme cela aussi qu'on peut le comprendre. Si on le ramenait à notre usage personnel, c'est que, vous voyez, à un moment donné, je ne sais pas si on prend ici, on sait un peu à l'avance ce que le prédicateur va dire. Et même si ce qu'il dit n'est pas ce qu'on attendait, de toute façon, on entend ce qu'on a envie d'entendre. Bon. Et du coup, il y a une sorte d'habitude qui nuit à la communication. Mais c'est vrai aussi dans les familles. Ouais. Voilà. Il y a une sorte de rituel qui s'installe et on sait un peu à l'avance ce qui va être dit. Et on pourrait se dire qu'une vraie communication, c'est quand on ne sait pas ce que l'on va répondre à quelqu'un avant qu'il ait fini de parler. Et là, c'est un peu le problème. C'est que Israël sait, avant même que le prophète ait parlé, ce qu'il va répondre. On continue, puis de toute façon, on va y revenir. Donc, versets 7 et 9, là, on a une deuxième raison pour laquelle la communication va être compliquée. Après la raison, peut-être, disons, culturelle ou linguistique, il y a la raison, alors ça irait dans ton sens, François, la spécificité d'Israël, qui est d'être une sorte de peuple rebelle. Ce sont les raboussiers, les protestants de base, quoi. Un peuple endurci, ça fait penser un peu à un peuple à la nuque raide ou au cou raide. Le front dur et le cœur endurci. Le front dur, en hébreu, c'est razak. Et razak, c'est la racine de Ézéchiel. Oui. Ézéchiel, c'est en fait Dieu qui fortifie ou qui rend puissant. Et ici, le prophète est face à un peuple qui a la tête razak, tête dure. Il y a des noms pour ça dans les Cévennes. Les gens qui sont un peu mascagnes. On a déjà ce qualificatif à peu de choses près dans le livre de l'Exode. Exode 32, verset 9. Exode 32, ça sonne comme le veau d'or. Et là, on a encore le terme qui est cette fois utilisé pour le cœur, donc de kasha. Il y a une sorte de dureté. Si vous voulez des références bibliques, Exode 32, verset 9, après on a Exode 33, verset 3, 5, puis après Exode 34, verset 9, par exemple. Donc, le fait qu'Israël soit considéré comme obstiné, c'est quelque chose d'assez constant. Et ici, on va avoir la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire que face à un peuple qui a le front dur et le cœur endurci, eh bien, ce qui va être proposé, c'est de renforcer le prophète. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Et ici, on a du coup l'idée selon laquelle on renforce le prophète pour qu'il puisse faire jeu égal. Il y a une sorte de mise à niveau d'Ézéchiel. Et un récit de vocation, c'est un récit qui donne le sens de la mission du prophète, mais c'est aussi un récit qui donne au prophète les moyens d'accomplir sa mission. Et ici, le moyen qui est donné, c'est de pouvoir faire jeu égal, et si on voulait faire un jeu de mots, le jeu, on pourrait l'écrire J-E-U ou J-E, c'est-à-dire il y a un renforcement de l'ego. Oui.
Bon, bah, super. Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre cette situation, cette mission donnée à Ézéchiel et celle de Moïse quand il est envoyé vers le Pharaon? Parce que là aussi, les questions, les problèmes à produire le Pharaon. Ce n'est pas dans le même sens que d'ailleurs que là, il rend endurci, c'est qu'il rend Ézéchiel plus fort.
Oui.
Pour le rendre plus apte. Mais c'est un peu la même chose, hein. L'Éternel aussi a donné des armes à Moïse qui hésitait. Du coup, c'était lui qui avait la langue pesante.
Oui, il n'était pas circoncis de la bouche.
Ces termes d'endurcir, etc. On les retrouve aussi dans les
interactions, oui, avec Pharaon, effectivement, oui. Où il va y avoir une lutte à mort entre les magiciens, notamment Pharaon d'un côté, et puis Aaron et Moïse de l'autre.
Ça veut dire que c'était des termes que les Hébreux étaient capables de comprendre. Enfin, s'il y a un peu une perspective historique. Il était habitué à ces termes d'endurcir.
si ce n'est que le livre de l'Exode n'existe pas encore. Mais comme je l'ai cité au préalable en disant que dans le livre de l'Exode, on trouvait aussi un peuple au cou raide, c'est que, en tous les cas, le motif de cette dureté est quelque chose qui va structurer les textes et qui va structurer notamment les interactions entre Israël et l'extérieur. Donc de ce point de vue-là, tu as tout à fait raison, mais dans un contexte assez particulier. Alors, l'hypothèse que je ferais, c'est que c'est dans des interactions où la mort est en jeu. Et j'utilise comme clé d'interprétation ce passage du Cantique des Cantiques, au chapitre 8, le verset 6, où on dit que l'amour est fort comme la mort. Souvent ici, on dit que l'amour est plus fort que la mort. Ce n'est pas biblique. Bibliquement, c'est l'amour est fort comme la mort. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire jeu égal. Elle joue pas perdue d'avance. Et à mon avis, la question de la dureté, c'est quand il y a un enjeu qui est la vie ou la mort. Et toute la suite du livre d'Ézéchiel, ici, là, ces deux chapitres, c'est bien la question de la vie ou de la mort. Est-ce qu'on va survivre à l'épreuve ou pas ? Et contre une sorte d'angélisme et de douceur jésuistique, bah ici, il y a la question de la dureté. C'est-à-dire être dur à la tâche. Il y a une sorte de refus de, oui, non seulement de la douceur évangélique, mais il y a, comme qui dirait, une sorte de renforcement du caractère agressif. C'est-à-dire qu'on équipe le prophète pour qu'il n'y ait pas d'esquive, mais qu'il y ait un affrontement. Dans le registre du frontal. Et d'ailleurs, c'est front contre front que les choses doivent se jouer ici. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui aurait tendance à s'opposer à une pratique non violente de l'esquive. Et ça ne veut pas dire que ça sera une lutte violence contre violence, mais c'est une lutte où on a la capacité de ne pas se dérober. On va pouvoir faire face. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à être responsable, c'est-à-dire à répondre au défi qui nous est lancé. Et toute la suite, ça va être la question de la responsabilité personnelle. Et le pharaon... ça y est, je suis contaminé maintenant. Merci, François. C'est Ézéchiel qui est prophète, prêtre aussi. Le prophète est équipé pour engager sa responsabilité. Et on va voir qu'ensuite, il y a une responsabilité individuelle qui va être le centre même de ce texte. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 8, verset 6, on dit que la jalousie est dure comme le Sheol. La jalousie n'a pas souvent bonne presse. Hein. Ben là, c'est positif. La jalousie est dure comme le Sheol, qui est le séjour des morts.
De toute façon, dès qu'il y a choix, il y a...
C'est François qui veut poser une question par SVP 2222. Oui.
Dès qu'on se sent choisi, on se sent armé, pas prêt.
Le fait qu'on se sente choisi ou appelé, déjà, ça nous renforce. Le fait qu'on nous sorte du lot, on se dit qu'il doit au moins y avoir une bonne raison. Mais ensuite, il y a des raisons objectives et on va voir qu'il y a un équipement du prophète.
Dans la vocation d'Isaïe, c'est la pureté des lèvres, puisque le chérubin amène une braise pour rendre la bouche pure. C'est une autre manière d'être aidé, d'être équipé.
Non, parce que ici, ça va être la même chose, si ce n'est que... Parce que ça va être la parole, en fait, qui va être l'équipement, mais qui va être dans le cœur. C'est-à-dire qu'on a une... De même avec Jérémie, cette histoire de la circoncision du cœur, c'est-à-dire que les paroles ne restent pas simplement sur les lèvres, mais qu'elles vont au cœur, ça veut dire qu'on... on devient ces paroles-là, en fait. Vous savez, comme quelque chose que l'on sait par cœur, en fait, notre conduite est impactée par cette parole. On fait un avec cette parole. Et ce n'est pas simplement quelque chose qu'on est capable de ressortir, de débiter, c'est quelque chose qui nous engage. Mais c'est parce que Ézéchiel et Ésaïe ne sont pas tout à fait contemporains. Enfin, le premier Ésaïe n'est pas tout à fait contemporain, je pense. Donc, justement, le verset 10 dit « Quelle est la force que reçoit le Fils de l'homme ? Reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. En fait, pour revenir avec le point de départ sur le peuple qui comprend, qui ne comprend pas, on a peut-être ici une sorte d'indication de ce qu'est une communication réussie. C'est-à-dire que l'insistance n'est pas donnée sur la parole donnée, mais plutôt sur la parole reçue, c'est-à-dire sur la capacité d'écoute. Et la difficulté, à mon avis, tient justement au fait que quand on est dans un environnement où on partage les mêmes codes culturels, il est très facile d'être volubile. En revanche, quand on est dans un milieu exogène, bah forcément, c'est pas facile. Du coup, il y a une sorte d'économie de la parole. Et cette économie de la parole est favorable à une bonne communication parce qu'elle est favorable à l'écoute. Et peut-être qu'ici, il est indiqué que, justement, l'écoute est ce qui fait défaut au peuple et que c'est la raison pour laquelle la communication va être tellement difficile. C'est qu'il est difficile de faire une place dans toutes leurs paroles. Et que le prophète, sa première qualité, c'est en fait d'être à l'écoute. Et que finalement, pour bien comprendre quelqu'un, bah c'est vrai que, bon, ça c'est une banalité affligeante, mais la première chose, c'est en fait de l'écouter.
De l'entendre.
Eh oui. Mais vous voyez, dans le cadre du dialogue interreligieux, par exemple, c'est une banalité très peu présente. Dans le dialogue interreligieux, très rapidement, il y a une sorte d'emballement de la parole parce qu'on veut convaincre l'autre de notre bonne foi et de notre raison. Et du coup, on n'écoute pas la vérité que l'autre a à nous révéler. Et c'est souvent un dialogue de sourds, le dialogue interreligieux. Voilà. C'est ça. On sait ce qu'on va répondre avant que l'autre ait fini de parler. Ce qui était l'inverse de ce qu'on pouvait proposer, ne pas savoir ce qu'on répondra tant que l'autre n'a pas fini de parler.
Il y a trois parties dans ce texte, en fait. Il y a trois parties dans ce texte.
Oui.
La préparation, j'endurcirai, etc.
Oui.
L'action et la conclusion. C'est-à-dire le résultat de l'action.
Si ce n'est qu'il n'y a pas de résultat de l'action, on reste quand même dans le registre de la préparation. Parce qu'on finira sur « voilà toutes les possibilités qui s'offrent à vous maintenant ». On va rester sur une ouverture, en fait. On ne sait pas quelle va être la réaction du peuple. Hein, ce n'est pas encore inscrit dans ce texte-là. On est plutôt sur une méthodologie et sur une responsabilité des auditeurs qui laissent, du coup, leur liberté totale. Mais en tous les cas, on est effectivement dans le registre de la préparation. Va vers les captifs, en fait, c'est va vers la Gola. C'est un terme classique pour les exilés ou les déportés. Mais aujourd'hui, la Gola, c'est plutôt quand même ceux qui sont en dehors du territoire d'Israël. et vers les enfants de ton peuple. Et là, vous voyez que c'est en fait le premier moment où on va avoir un rapprochement avec le chapitre 33. Avec cette expression « les enfants de ton peuple ».
Est-ce que ce sont des Israélites à l'étranger, exilés ?
Oui, ils sont un peu exilés puisqu'ils sont à Babylone. Enfin, ils sont sur les rives du fleuve Kébar. Ce sont les personnes qui ont été déportées après l'attaque de Babylone. Donc, la Gola, c'est celle que l'on a vue dès le début du livre d'Ézéchiel. Et ensuite, on va voir qu'il y a eu une deuxième déportation. On va voir de quoi il en est question. Tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle. Alors là, vous voyez, c'est écrit le Seigneur, l'Éternel. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est pas le Seigneur, mais mon Seigneur. Ouais, ouais, c'est ça, c'est mon Seigneur.
C'est bien Adonai dans le texte hébreu, mais il y a une note dans l'opéra critique qui suggère que la Septante ne l'a pas. Bon, c'est juste le tétagramme.
D'accord. Ouais. Ouais, parce que ça posait problème de traduire curios curios du coup. Donc, oui, François.
Je m'arrête là sur ce morceau de verset.
Oui.
Ils écoutent ou ils n'écoutent pas.
Oui.
C'est comme si, je ne sais pas, je m'interroge sur le sens. Pourquoi il y a cette restriction ?
Bah, il n'y a pas de restriction, il y a au contraire...
Ils n'écoutent pas.
Bah, c'est pas restrictif.
Non.
J'aurais dit c'est l'inverse.
Oui, c'est le contraire.
En fait, ça va engager le prophète sur la situation de beaucoup de professionnels. Ça veut dire obligation de moyens et pas de résultats. Qui ont droit à des conséquences. Et on va le voir après en évoquant toutes les possibilités de réaction du peuple à ce que le prophète va proposer. Donc je trouve que c'est moins restrictif que ce qu'on pourrait craindre, en fait. Donc tu leur diras ainsi parle mon Seigneur l'Éternel. Et à mon avis, c'est un acte de communication intéressant. Et c'est utile pour votre évangélisation propre ou votre dimension prophétique. C'est qu'on est dans le registre du témoignage. C'est-à-dire que de même qu'il y a des exégètes qui ont pu dire « mon Jésus », eh bien là, de dire « mon Seigneur », il y a quelque chose d'honnête et de juste. C'est-à-dire que, à la fois, on reconnaît que c'est subjectif, peut-être partiel, certains diraient partial, mais c'est aussi plus efficace parce que ça permet, quand une communication interpersonnelle est établie, que l'autre nous rejoigne dans notre réalité. Alors que si on parle d'un point de vue objectif, théorique, mis à distance, il n'est pas évident que l'autre arrive à rejoindre ce point très théorique. Vous voyez, l'abstraction, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Quand on fait un récit, l'identification est plus facile. Et du coup, dire « mon Seigneur », c'est plus facile, ça permet, disons, à l'auditeur d'y adhérer plus facilement. Que dire le Seigneur de façon brute, qui peut rester quelque chose de très étranger. C'est de la manipulation, hein, vous me direz, mais tout acte de communication est une manipulation. Là, je vous manipule, par exemple. François aussi me manipule. Et ceux qui ne parlent pas me manipulent aussi, d'ailleurs.
ou tu ne l'écoutes pas.
Ouais.
Moi, c'est traduit ou qu'ils ne prennent pas garde. Qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde.
Oui, c'est juste. C'est deux verbes différents, oui.
Et ça renvoie également à 2, 4, 5, la même expression, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde.
Non, non, c'est juste...
Non, c'est pas le même sens.
Ah oui. Et donc... Et du coup, ça nous permet d'aller sur ce verset 12 qui offre une curieuse... comment dire, une curieuse introduction à un thème que l'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que, pour vous dire les choses clairement, ça fait référence à Noël, avec l'acclamation des anges. Hein. « Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure, gloire à Dieu dans les cieux. » Et l'événement de Noël peut susciter soit l'adhésion, soit la non-adhésion. C'est-à-dire qu'on va constater dans les évangiles de Noël qu'il y a soit ceux qui viennent adorer, qui changent de chemin et qui vont suivre une autre route pour aller jusqu'à l'épiphanie, disons. Et puis il y a ceux qui sont durs dans leurs convictions et qui vont même engager une stratégie de destruction. Et qui, du coup, ne vont pas prendre la parole des mages, par exemple, de façon positive. Ça ne va pas les convertir, ça va au contraire les endurcir dans une voie maléfique. Et c'est ça, le fait d'écouter ou de ne pas tenir compte de ce qui est dit. Ou de défier, en quelque sorte. C'est l'idée du défi. On défie la parole. Comme si on pouvait être au-dessus de cette parole-là. Comme si elle pouvait ne pas nous concerner. Comme si elle ne disait pas quelque chose de vrai sur nous. Comme si on était plus fort que cette parole. Comme si on pouvait même peut-être s'en laver les mains. Il y a à la fois du Noël, donc avec Luc 2, verset 14. Ça, c'est la formule des anges. Mais il y a aussi, plus tard, un rappel dans le livre de l'Apocalypse, avec le grand tumulte, avec une voix grande. C'est le début de l'Apocalypse, au chapitre 1, tout ce qui va être verset 10 et suivant. Ici, on a un séisme. Le grand tumulte est traduit par séisme dans la Septante. Et en dehors de ce séisme, on a tous ces éléments-là qu'on va retrouver dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Peut-être que je vous en lis un petit peu, un ou deux versets, pour que vous l'ayez dans l'oreille. Donc c'est l'Apocalypse que je lis, hein, c'est pas Ézéchiel. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une puissante voix, donc c'est un grand bruit, hein. Kol en hébreu c'est voix en fait, donc on pourrait traduire par une grande voix ou une puissante voix, telle une trompette, la trompette on l'aura au chapitre 33 d'Ézéchiel, qui proclamait ce que tu vois, écris-le dans un livre. Si on avait lu le chapitre 3 à partir du premier verset, on aurait vu qu'il y avait l'histoire du livre et qu'il fallait manger d'ailleurs, et envoie-le aux sept églises, ce qui est une façon de dire adresse-toi au peuple en fait, hein. Donc, vous voyez, Ézéchiel 3, là, va servir de point de départ au livre de l'Apocalypse, qui est un contexte de Noël, puisque l'Apocalypse, c'est révélation, et que Noël, c'est révélation, en fait. Et quand on veut être dans un contexte de révélation, ou de théophanie, ou d'épiphanie, eh bien, on utilise ce genre d'éléments. Oui. On a ici des éléments littéraires qui justement pour les auditeurs de l'époque, disent, eh bien, attention, ici, théophanie. C'est le signal lumineux, en fait. Ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est de vous dire aujourd'hui quels pourraient être les signaux littéraires qu'on utiliserait pour dire attention théophanie. Ça serait un bon acte d'herméneutique de se dire tiens, si je devais aujourd'hui dire à quelqu'un il y a quelque chose de décisif qui se joue, comment est-ce que je glisserais quelques éléments pour alerter son esprit ? Et la théophanie se poursuit avec ce qu'on avait vu au premier chapitre d'Ézéchiel. J'entendis le bruit des ailes des êtres frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. Donc quand je disais une deuxième déportation, c'est qu'il y a la déportation du peuple et puis il y a la déportation de Dieu. Et là, c'est Dieu qui est déporté. C'est-à-dire qu'on a le temple rempli de Dieu présent. Hein, puisqu'on avait vu au chapitre 1 que l'évocation un peu surnaturelle de ce gros bazar mystérieux, c'est en fait une contraction de tous les éléments du temple en un seul élément. Et que la gloire de Dieu allait vers le fleuve Kébar, c'était une façon de dire que la présence de Dieu était du côté des exilés. Que, du coup, il y avait un nouveau temple là, sur les rives du fleuve Kébar. Donc, contexte de théophanie, c'est une façon de dire bon, ben voilà, il y a vraiment une parole de Dieu qui va s'exprimer. L'esprit m'enleva et m'emporta. Bon, là, c'est un thème classique, on le reverra particulièrement quand il y aura la vision des ossements desséchés. Ensuite, j'allais irrité et furieux, littéralement, c'est amer et dans la fièvre de mon esprit. Et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Donc la main de l'Éternel était forte sur moi. Ce qui reprend le thème de l'endurcissement du verset 8. Et du coup, c'est là qu'on peut dire qu'effectivement, Ézéchiel est Ézéchiel, c'est-à-dire que Dieu le rend puissant ou le fortifie. Donc, Dieu qui fortifie, c'est Ézéchiel. Razak.
Tu parlais de Jonas tout à l'heure, mais on trouve un peu la même chose chez Ézéchiel. Il était irrité et furieux. Il résistait, en quelque sorte. Comme Jonas.
Ou bien d'autres, d'ailleurs. C'est parce que
la main de Dieu qui était. Voilà.
Ouais.
C'est la pression, quoi. C'est une réaction qu'ils ont tous, hein,
oui. De
manière que Moïse. Oui, en tout cas, il y a systématiquement un refus de la mission, ouais. Qui est en général la trace de l'humilité. Considérant qu'ils ne sont pas aptes à ce qu'il aurait demandé. Moïse va dire qu'il est incirconcis de la bouche, hein, qu'il n'est pas crédible, etc. Et quand ils vont me demander qui c'est qui m'envoie, qu'est-ce que je vais leur raconter, j'en sais rien. Moi. C'est un petit peu spécifique cette irritation, cette amertume de la part d'Ézéchiel. Mais effectivement, il y a un trait commun à tous les prophètes, c'est qu'ils commencent par refuser la mission qu'il leur est confiée. Sous l'angle de « je n'en suis pas capable ». D'ailleurs, en général, quand vous sollicitez quelqu'un pour une mission de prestige et qu'il vous répond « oui » tout de suite, ça veut dire que vous avez peut-être fait un mauvais choix. Les gens un peu trop sûrs d'eux, des fois, ça peut poser problème. Bon, après, il y a aussi des timidités maladives qui ne sont pas forcément meilleures, mais bon. Ensuite, justement, par rapport à Moïse, on va voir qu'il y a un parallèle, si ce n'est avec Moïse, du moins avec les prêtres. Et là, on va avoir la question des prêtres en jeu. C'est plutôt Aaron qui fait office de prêtre du temps de Moïse, mais bon. J'arrivais à Tel Aviv, donc c'est le nom qui va donner la capitale d'Israël de nos jours, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve Kébar, dans le lieu où ils se trouvaient. Et là, je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Alors, il y a deux indications qui sont décisives. Tout d'abord, il y a Aviv. Donc, Tel Aviv, Tel, c'est la petite colline. Et Aviv, ça désigne une céréale, en fait. Mais ça désigne surtout le premier mois de l'année dans le calendrier hébraïque, avant que ça devienne le mois de Nissan, sous l'influence de Babylone. Et c'est important parce que ce premier mois de l'année, en fait, c'est le mois de la sortie d'Égypte. Quand on faisait le lien avec Moïse, c'est que Aviv, donc le premier mois, c'est le moment où on dit, eh bien, le peuple commence un nouveau calendrier, en fait, en sortant de l'Égypte. Et du coup, ça évoque deux choses. Ça évoque la libération, puisque c'est dans ce mois-là que ça se passe. Aujourd'hui, il y a encore les Karaïtes qui utilisent le mois d'Aviv, sinon c'est Nissan. Le mois de Nissan, d'ailleurs, on le trouve dans le livre de Néhémie au chapitre 2, verset 1, c'est le moment où ça change d'appellation. Il y a à la fois donc, la sortie d'Égypte, et puis il y a le pendant, qui est l'entrée en terre promise. Ça se passe le même mois, et il se passe la même chose, c'est-à-dire que c'est la fête des orges, et on va célébrer la fête des pains azim. C'est important de garder les deux, y compris quand on parle de Pâques avec Jésus. C'est à la fois la sortie d'Égypte, mais c'est aussi l'entrée en terre promise. Et c'est d'autant plus important quand on se souvient que Jésus, en fait, c'est Josué. Jésus, c'est le nom hébreu, et Josué, c'est le nom grec. La Septante, c'est Jésus, fils de Noun. On a ici une résurgence ou une anticipation, ou enfin, en tout cas, il y a un parallèle littéraire, narratif, avec cette thématique sortie d'Égypte, sortie de la servitude et entrée dans la terre promise. C'est-à-dire qu'on est au chapitre 3 d'Ézéchiel, où le prophète dit, eh bien, il ne serait pas impossible qu'ici, à Babylone, vous ayez vécu votre propre exode et votre propre entrée en terre promise. Et qu'en passant le fleuve Kébar, ou peut-être l'Euphrate, vous ayez fait votre entrée en terre promise. Ce qui a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est bien sûr de légitimer le peuple. Vous savez qu'au retour d'exil, il y aura un conflit pour savoir quel est le véritable Israël. Est-ce que c'est celui qui est resté à Jérusalem? Est-ce que c'est celui qui est parti en exil? Et là, Ézéchiel donne des lettres de noblesse au peuple exilé, en disant « Dieu était avec vous ». Donc le véritable Israël. Le deuxième intérêt, c'est l'universalisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on retrouvera dans un texte qu'on lit jamais. C'est dans le livre de l'Exode, ça doit être la fin du chapitre 19. C'est juste avant le décalogue. C'est le rituel de construction de l'autel, le mitzbar. Donc, comme on n'en a rien à faire de la façon dont il faut construire un autel pour les sacrifices, on ne le lit jamais. Dommage parce que c'est un texte bien construit. Et c'est surtout un texte qui dit que Dieu sera présent non pas là où on l'appelle, mais partout où il prononcera son nom. C'est-à-dire que la présence de Dieu ne dépend pas du bon vouloir des hommes. La présence de Dieu, elle est effective malgré les hommes. Et du coup, le fait que Dieu soit présent là sur les bords du fleuve Kébar auprès de ces populations exilées, eh bien c'est ça la grâce. C'est qu'au fond, ces personnes n'avaient pas spécialement mérité quoi que ce soit. Elles n'ont rien fait de particulier. Elles n'ont pas démérité non plus. Et Dieu était là. Bon, voilà, ça relève de la grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous. C'est une sorte de surabondance. Bon, bah ça, c'est ce qui peut s'exprimer à la fois avec la mention d'Aviv, et puis avec cette mention de 7 jours. 7 jours, quand je vous aurais dit 3 jours, vous m'auriez dit mort et résurrection. 7 jours, vous allez me dire création, mais c'est Ézéchiel qui est prêtre, et 7 jours, c'est le temps pour la consécration du prêtre. Vous avez cela dans Lévitique, chapitre 8, versets 33 à 35. Allez, je vous le lis comme ça. Ça nous fait voyager un peu dans la Torah. Lévitique, chapitre 8, versets 33 à 35. Donc on est avec Moïse et Aaron. Et pendant 7 jours, vous ne quitterez pas l'entrée de la tente de la rencontre jusqu'au moment où s'achèvera le temps de votre investiture, car pendant 7 jours, on vous conférera l'investiture, comme on l'a fait aujourd'hui. Le Seigneur a ordonné de procéder ainsi pour faire sur vous le rite d'absolution. Vous demeurerez à l'entrée de la tente de la rencontre jour et nuit durant 7 jours. Ensuite, vous pourrez assurer le service du Seigneur sans mourir. C'est ce qui m'a été ordonné. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Voilà. Et donc, là, il peut faire son office de prêtre et de prophète. Pourquoi ? Pour devenir sentinelle. C'est vraiment le type qui n'a pas de chance, quoi. Non content d'être prophète, il est prêtre et en plus sentinelle. D'ailleurs, c'est pire que Zadig et la destinée infernale, quoi. Donc, chapitre 3, on en est au verset 17. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Donc vous voyez, on est encore dans ce prophète qui est prophète d'abord parce qu'il écoute. Et sentinelle, pareil, c'est le terme que l'on va retrouver dans le chapitre 33, là au verset 2. Donc on a une nouvelle correspondance. Et puis, évidemment, qu'on va retrouver au verset 7. Oui.
Si on s'attache au sens des mots,
oui.
Sentinelle, ça serait plutôt le peuple d'Israël qui établirait une sentinelle pour regarder au loin si les ennemis approchent.
Oui.
Et là, il dit plutôt, je t'établis comme sentinelle, mais comme sentinelle de Dieu, enfin, de l'Éternel.
Comme sentinelle du peuple, malgré le peuple qui est inconscient du danger.
Un terme qui a une signification de prophète, non ? Je t'ai établi comme sentinelle pour annoncer au peuple ma parole.
Ouais. Mais c'est parce que...
C'est pas le terme sentinelle auquel on a habitué.
Oui. Alors en fait, le terme sentinelle ici, ça serait le terme de, disons, surveillant. En hébreu, c'est... cette safa, c'est pas gardien au sens de chamar, c'est... Pardon ?
C'est comme un héros qui annonce.
Ouais, mais qui annonce le danger.
C'est un
guetteur, ouais.
Il y a l'idée d'être aux avant-postes.
Dans tous les cas, d'observer ce qui pourrait menacer et de prévenir. La sentinelle, c'est ça, en fait. C'est un peu la sonnette d'alarme, quoi. Ouais. Et... quelle que soit la traduction que l'on adopte, c'est l'idée de quelqu'un qui rencontre une situation de danger. C'est pas quelqu'un qui est gardien d'eux, qui garde, mais c'est quelqu'un qui va tirer le signal d'alarme, quoi. Ouais. Et en fait, ce que tu as raison de souligner un peu cette bizarrerie, c'est-à-dire que dans le texte, le peuple est incapable de prendre en charge la nomination de la sentinelle, c'est-à-dire que le peuple est inconscient du danger, il faut que quelqu'un le fasse à sa place. Et ensuite, par contre, le peuple sera rendu responsable de ce qu'il fera ou non de l'alerte qui est donnée. Ça sera plus manifeste dans le chapitre 33, puisqu'on dira quand l'épée approchera, il s'agira de donner l'alerte. Mais ici, c'est qu'en fait, le danger... est identifié comme quelque chose de non visible ou d'insensible. Et que le danger, en fait, c'est le peuple lui-même. C'est le peuple qui se met en danger par sa propre conduite. On pourrait dire que ça relève de la morale, par exemple. Morale au sens où le comportement que l'on a est disons, malheureux, c'est-à-dire que ça va provoquer notre perte. Et il y aura dans le chapitre 33 une mise en scène d'ailleurs de ce qui provoque la chute. Ici, les versets 17 à 19, envisagent justement de responsabiliser l'auditeur. Dans un premier temps, il s'agit de surveiller et de ne pas être le gardien. Et j'insiste là-dessus parce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec Genèse 4, avec l'idée d'Abel et de Caïn, avec Caïn qui dit, mais suis-je gardien de mon frère ? C'est le verbe, enfin c'est chamar qui est utilisé, gardien au sens où on le garde, on le préserve, mais on fait en sorte que rien ne l'atteigne. Et en fait, le texte biblique va répondre à cette question, est-ce qu'on est le gardien de notre frère ? Peut-être pas, mais en tout cas, on est le surveillant de notre frère. C'est-à-dire qu'il s'agit d'alerter le frère des dangers qui le guettent ou qui le menacent, disons.
Là, il y a quand même quelque chose qui est... dans cette responsabilité qui est donnée à la sentinelle,
ouais.
Qui est assez effrayant, hein, parce que si tu ne préviens pas, hein, et bien,
oui. Oui, alors ça, c'est parce que tu as une perspective de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est si tu me crèves un œil, je te crève un œil. Mais on peut imaginer la loi du talion comme un processus de réparation. C'est-à-dire que quand un tort a été fait à quelqu'un, il s'agit de le compenser. Exemple. Actuellement encore, en Palestine, par exemple, si vous renversez, je sais pas, un enfant et que vous le tuez, certaines tribus vous demanderont X brebis en échange. Bon, c'est la loi du talion, mais pas au sens où vous avez renversé mon fils, eh bien, très bien, j'écrase le vôtre. Parce que effectivement, là, c'est stérile. Mais la loi du talion, c'est plutôt d'essayer de trouver des rapports, des proportions. Donc effectivement, la responsabilité de la sentinelle est importante, mais vous voyez, l'expression « je réclamerai son sang », c'est justement celle que l'on trouve avec Abel et Caïn. C'est Genèse 4, verset 10. Et Caïn n'est pas assassiné par Dieu pour le prix d'Abel. Il est protégé par Dieu, justement. Et il y a ce signe qui évite cette spirale infernale de la vengeance, etc. Bon. En se disant, Abel avait des amis, ils vont vouloir venger leur ami, ils vont tuer Caïn, et si tu Caïn, Caïn qui avait des amis, il va... Voilà. Bon. Même si à l'époque, il n'y avait que 4 personnes sur Terre. Bon. Donc, il y a à la fois une grande responsabilité donnée à la sentinelle, mais aussi... une responsabilité très limitée, c'est-à-dire qu'ensuite, c'est l'affaire du peuple. Et vous voyez, ça rejoint ce que j'avais pu dire du libéralisme politique. Ici, il y a un laisser-faire, laisser-passer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, ben maintenant, c'est à vous d'en faire quelque chose ou pas. Mais la responsabilité de la sentinelle est dégagée. Une fois qu'il a fait son œuvre de sentinelle, alors ça ne lui appartient plus. Alors après, chacun peut incarner cette fonction comme il l'entend. C'est-à-dire qu'il peut réitérer la prophétie, etc., peut-être. Mais la responsabilité du prophète, c'est juste d'avertir ici. Et pas de convertir. En fait, c'est le terme « chouf » qui est utilisé ensuite. Notamment à partir du verset 20, c'est quand un juste se détourne de sa justice. En fait, c'est chouv. Vous voyez, d'ailleurs, chouv, c'est donc chouv avec la teshuva, la conversion. En fait, c'est un terme beaucoup plus neutre que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que chouv, ça peut être aussi bien une action positive que négative. C'est juste un demi-tour. Et on peut faire un demi-tour dans le mur. On peut faire un demi-tour dans le précipice. C'est pas parce qu'on fait une conversion que c'est dans le bon sens. Et ici, il est précisé que justement, un juste peut se détourner de sa justice, faire ce qui est mal, et du coup, c'est lui qui prend toute la responsabilité de cet acte, et c'est lui qui va en payer le prix. Mais il y a quelque chose d'étonnant, c'est la mise en scène, justement, une sorte de pédagogie, au verset 20. « Je mettrai un piège devant lui. » En fait, le... Ça, c'est quand même une mauvaise traduction. Mikshol, c'est ce qui fait trébucher. Des fois, c'est pierre d'achoppement, d'ailleurs, dans les traductions, ce qui est plus juste. Et ce qui fait trébucher, en grec, ça serait le scandale. Le scandalizon. Quand Jésus dit à Pierre, tu es pour moi un scandale, en fait, c'est tu es un motif de chute, quoi. Une pierre d'achoppement. Là, dans la Septante, c'est pas traduit par scandalon, mais c'est dans le Nouveau Testament qu'on le trouve plus facilement. Toujours est-il qu'ici, il y a en fait une mise en scène de ce que le peuple va vivre s'il ne change rien à sa conduite. Donc, c'est ce qui permet de comprendre comment fonctionnent ces oracles prophétiques qui semblent très menaçants et qui semblent dire que Dieu est un justicier impitoyable. C'est qu'en fait, il y a une dramatisation du comportement du peuple, c'est-à-dire que pour que le peuple comprenne ce qu'il est en train de faire, eh bien on va lui faire jouer la scène. Et on lui fait jouer la scène en le mettant en situation de trébucher. Bon, alors c'est juste un procédé littéraire ici, mais l'idée est la suivante, c'est qu'il y a une pédagogie qui est de faire visualiser ce que chacun est en train d'entreprendre. Pour qu'ils prennent conscience des conséquences de ces actes. On pourrait dire, on joue la scène jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a des façons de faire ça, ce qu'on appelle les psychodrames, où on joue des situations de la vie quotidienne pour voir comment tel choix, telle attitude conduit à ceci ou à cela. Alors, par exemple, on va jouer une scène dans un bus, quelqu'un qui refuse de se lever alors qu'il y a une femme enceinte qui rentre, etc. Enfin, bon, voilà. Pour voir quels sont les mécanismes en jeu et ce que ça provoque au bout du compte. Et le prophète a cette fonction, en fait, de créer ce spectacle où les gens visualisent la conséquence de leurs actes. Et ce que l'on voit aussi, c'est que le divin n'intervient pas dans le cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'il donne les éléments pour mettre en perspective la situation, mais il n'y a rien d'écrit à l'avance. Il n'y a pas de scénario écrit à l'avance, et il n'y a pas d'interaction matérielle avec la suite de l'histoire. Et vous voyez que la formule qui est utilisée pour dire que la responsabilité de la sentinelle est désengagée une fois qu'elle a fait son travail, c'est de dire que tu... Alors là, c'est traduit par « tu sauveras ton âme ». En fait, c'est « tu libéreras ton âme ». Ton âme est libre une fois que tu as fait ton travail. L'âme est...
Tu sauveras ta vie.
Ouais. Alors c'est « nefesh », donc c'est, disons, l'âme... Et c'est Natsal, délivré. Donc tu délivreras ton âme, c'est pas mal, parce que c'est une façon de dire que tu la délieras, en fait, de cet engagement, de cette responsabilité qui la tienne. Donc vous voyez, obligation de moyens, pas de résultat.
Il y a une petite nuance entre les deux traductions.
Oui.
Ils sont toutes les deux de second.
Oui.
Sur le papier, c'est parce qu'il s'est laissé avertir. Et moi, j'ai parce qu'il a été averti. C'est pas tout à fait pareil. Quand il a été averti, c'est bon, il n'est pas forcé.
Oui,
oui. 21. C'est pas forcé. Il ne s'est pas forcément laissé avertir. S'il est
ouais.
Simplement.
Que dit Dorme dans votre traduction? Est-ce qu'il n'y a pas une note en bas de page sur le verset 21 chez Dorme? Oui, mais juste avant, sur le fait d'être averti.
Lorsqu'il a été mis en garde, le juge pour qu'il ne pêche pas et qu'il n'aura pas à pêcher, assurément, il vivra, car il aura été mis en garde.
Mm-hmm.
Et quant à ça, tu auras préservé ta
vie. Oui. Parce que ce n'est pas un passif, ce n'est pas un ifal, c'est tu as été averti, oui. Oui, ça fait partie de ces petits bouts de traduction qui sont un peu préjudiciables. De même que c'est pas tout à fait parce que c'est plutôt une conséquence en fait. C'est alors que, à la limite plus que. De même que ça commence pas par le verset 20, c'est pas si un juste se détourne, c'est plutôt quand un juste se détourne. Enfin bon, ça c'est des petits détails quand même.
C'est ce que dit Dorme, quand, pour le verset 20, c'est quand le juste reviendra.
Ouais. Ouais, c'est plus juste, mais c'est pas im. Comme on, voilà, on a bien travaillé, je pense qu'on a bien travaillé, mais en tous les cas, on a épluché le... Oui.
Plein de perplexité, tellement que je ne sais pas commencer. Mais bon.
Ok, allons-y.
Ézéchiel a introduit ici, et en 33, le rôle de guetteur, de sentinelle. Ça, c'est pas trop difficile. Et on retrouve l'idée de la responsabilité personnelle qu'on a voit en chapitre 18 aussi. Bon. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel en général, ni dans la suite de l'histoire ici déjà en 3, parce que Ézéchiel a reçu ses instructions. Qu'est-ce qu'il fait immédiatement? En fait, Dieu le dit, non, tâte-toi et tu vas faire ces actes symboliques. Bon. Alors, déjà, le rôle et le message du guetteur, ça se perd de vue, il semble. Peut-être on pourrait dire que les actes symboliques, c'est une autre façon de le faire, mais pourquoi alors l'insistance sur la langue qu'on trouve ici quand il ferme la bouche après? Mais plus problématique encore, c'est que l'idée de responsabilité personnelle ne va pas, ça vient avec l'idée d'un sort politique d'Israël où la nation est bien punie. Est puni pas seulement pour des transgressions morales, ni pour des transgressions cultiques, bien que les deux sont en jeu, mais aussi pour des transgressions politiques, c'est-à-dire le parti pris pour l'Égypte contre Babylone. Alors, si on le met ensemble, je ne comprends pas qu'est-ce que se passe ici.
Alors, peut-être que c'est dans la chronologie que les choses s'éclaircissent. Et peut-être que la réponse, elle vient dans ce chapitre 33 où on dit que finalement, tous les mérites que les justes ont accumulés, on ne s'en souvient pas dès lors qu'il y a une transgression. Ce qui d'ailleurs peut poser problème, et ce qui pose problème, il va devoir discuter dessus. Et alors, peut-être que Ézéchiel est en train de solder l'histoire d'Israël en ne capitalisant pas l'histoire d'Israël pour penser la suite de son histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, les autres prophètes vont considérer que si Israël en est arrivé là, c'est-à-dire la déportation, c'est à cause de ses alliances avec l'Égypte au lieu de se fier à Babylone. Donc il y a une erreur politique qui engage la responsabilité collective. Responsabilité collective que refuse Ézéchiel. Peut-être parce que justement Ézéchiel ouvre un avenir à Israël. C'est-à-dire qu'il permet à Israël de ne pas vivre éternellement sous le poids de cette erreur politique. Ézéchiel qui, comme je le laissais entendre, prépare aussi une sorte de réconciliation entre les deux parties du peuple, ceux qui sont restés, ceux qui sont exilés, et qui donne au peuple les moyens de se penser dans l'avenir avec ce qui va être quand même une des grandes tendances de l'Ancien Testament, non pas comme nation, mais comme peuple. C'est-à-dire, c'est probablement à partir de là qu'on va récuser la volonté du peuple d'avoir un roi, de se considérer, enfin de se vouloir comme les autres nations, et avec notamment ce qu'on appelle la tradition deutéronomiste qui va véritablement insister sur la dimension nomade du peuple. Et peut-être sur la possibilité qu'Israël ne soit pas confiné à un territoire. Et lorsqu'on regarde le livre de Josué, qui pourrait être envisagé comme un cadastre divin, on voit qu'en permanence, les frontières sont floutées. Et que même l'entrée en terre promise est floutée, c'est-à-dire qu'on n'en finit jamais de traverser le Jourdain. Une fois qu'on l'a traversé, on est encore en train de le traverser. Les chapitres 3 et 4 sont impossibles à lire, littéralement. Et peut-être qu'Ézéchiel est justement témoin de ce courant qui va penser l'identité d'Israël autrement que dans des catégories politiques et donc nationales, où on va justement insister sur la notion de Ham, Laos, plutôt que Goy, ethné. Et en insistant sur la dimension individuelle de la responsabilité, il va, à mon avis, permettre deux choses. La première, c'est de refuser la responsabilité collective. Et deuxièmement, de considérer que personne n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire que personne ne peut se prévaloir d'un passé suffisamment glorieux pour être dispensé d'affronter le jugement, en quelque sorte. Voilà pour quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si ça lève la perplexité, ça m'étonnerait. Mais ça doit la dissiper un peu.
Bon, en fait, le problème, c'est que...
J'ajoute encore une petite chose. C'est sur le plan de la narration d'Ézéchiel. C'est qu'en fait, il y a un problème avec la narration d'Ézéchiel, c'est qu'il n'y a pas de narration chez Ézéchiel. C'est qu'il y a une succession de flashs. Parce qu'il y a une reconstitution de petites prédications, de petits textes, qui forment un livre au final, mais c'est un livre qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une collection de paroles. Et avec, même dans ce chapitre, en fait, on pourrait voir qu'il y a un élément qui est injecté au milieu d'un texte certainement préexistant. Du coup, c'est difficile de dire, après ce texte, voilà ce qui se passe pour Ézéchiel. Parce que, on l'a vu d'ailleurs, il y a des sauts de puce dans tous les sens. Mais je vous rends la parole.
Quand même, il y a des déportations successives. C'est juste après le passage sur le gâteur en 33 que la vraie chute de Babylon, de Jérusalem commence. Alors, c'est problématique. Hein.
Oui, mais Ézéchiel ne s'adresse pas à ceux qui sont encore à Jérusalem. Lui fait partie de la première vague. Et il voit arriver la deuxième. Il est peut-être d'ailleurs obligé d'intensifier sa prédication, parce que c'est encore pire que ce qu'il pouvait craindre. Mais il me semble qu'il est plus dans la logique de la consolation et de l'ouverture d'un avenir possible que dans la catégorie du jugement de ce qui s'est passé. Jérémy va l'être beaucoup plus de ce point de vue-là. La couche deutéronomiste avec Jérémy, si on considère que c'est la même couche. Mais je reviens sur le fait que c'est une collection de textes. On peut se demander, d'ailleurs c'était la question que Philippe m'avait posée, à laquelle je ne lui ai jamais répondu, je vais peut-être en profiter. À qui s'adresse Ézéchiel ? Bon. On peut... En fait, c'est une question très importante parce que c'est aussi ce qui aide à donner du sens à ce texte. Et il semble qu'Ézéchiel s'adresse à plusieurs publics. Et qu'ici, il s'adresse un peu sous l'angle de l'homme politique, au peuple probablement. Mais est-ce qu'il s'adresse au peuple comme un tribun le ferait lors d'une campagne ? Non. Certainement qu'il s'adresse au peuple par l'intermédiaire des autres prêtres. En fait, ils sont en train de réfléchir à une théologie du peuple, ou à une sorte de théorie de ce que doit être le peuple. Comment est-ce qu'on va parler du peuple maintenant ? Quand il va, dans le chapitre 34, parler des vrais et des faux pasteurs d'Israël, des vrais bergers, manifestement, on voit qu'il a une fonction un peu papale au sein des prêtres. Vous voyez, premier parmi les pères, et qu'il leur dit quelques vérités. Je veux dire, actuellement, François est un peu en train de faire ça du côté du Vatican avec ses cardinaux, en disant « il faudrait peut-être arrêter ceci et cela ». L'autre François. Du coup, on peut se dire que le destinataire de ces textes, c'est d'abord la classe sacerdotale, pour qu'ensuite ça rejaillisse sur le peuple par rebond. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait affaire à un séminaire. Ça se joue en interne, peut-être. Et quand la première séance, j'avais dit qu'en fait, il y a un style très décousu et qu'on peut imaginer que c'est peut-être le premier livre biblique constitué, j'avais dit aussi que c'était un peu comme des prises de notes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages qui sont, sur le plan littéraire, moi je me fie à ceux qui maîtrisent bien l'hébreu pour cela, style trop lapidaire pour être honnête. Disons que ce sont des éléments de réponse. Mais pourquoi ne pas maintenir vive la perplexité ? Pourquoi ne pas considérer que l'intérêt majeur de ce texte est de nous poser question ? Et de considérer que s'il n'a pas été lissé, ce texte, c'est peut-être parce que c'est le meilleur service qu'il a à nous rendre.
Bonne idée libérale, mais quand même, disons, le chapitre 40 jusqu'à 48 a des idées très concrètes sur ce que doit venir dans l'État reconstitué et à Jérusalem.
Oui. On verra que c'est une utopie aussi. Donc, on verra que c'est un peu un projet à la Fada de Marseille, au Corbusier, quoi, hein, pour une part, et à... c'est des villes totales, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'irréalisable aussi. Donc, pour ça, on aura notre séquence pour ça. Mais pour défendre la perspective libérale, puisque vous me taquinez là-dessus, il faut bien que je réagisse un peu. On ne peut pas laisser passer ça tout à fait. Je vous donne juste quelques bribes sur le chapitre 33, du coup. Vous voyez, par exemple, dans le chapitre 33, il y a la question de la trompette qui est évoquée, qui apparaîtra aussi dans le livre d'Apocalypse, mais ça, c'est finalement anecdotique. En fait, c'est le chauffard. Le chauffard qui, effectivement, a une fonction cultuelle extrêmement importante. Il y a une théologie du chauffard. Lisez des choses sur le chauffard, je ne peux pas tout vous dire, mais je crois que Marc Alain Wakening, dans un de ses bouquins, en parle, notamment sur la question de la discontinuité. Le chauffard travaille sur la question de la discontinuité. Ça vous aura peut-être échappé, mais l'orgue fait pareil. Ce qui est intéressant dans l'orgue, ce sont les silences. L'organisme ne peut jouer que sur les silences. Bon, ok, ça vous semble pas évident comme ça. Le chauffard, ça joue sur... C'est comme un peu le morse, les traits, les points, etc. Ça va jouer sur la discontinuité. Et en fait, il me semble qu'Ézéchiel joue sur la discontinuité. C'est-à-dire qu'il casse des idées, en quelque sorte préconçues, que le peuple véhicule, dont qu'il vit et qui le font mourir. Notamment, il le dit dans la fin de ce chapitre 33, vous dites que les voies du Seigneur ne sont pas droites, ne sont pas justes, que ce n'est pas juste ce que vous vivez. Et en fait, qu'est-ce qui n'est pas juste? C'est vous qui n'êtes pas juste. Alors, qui a raison? L'argument d'Ézéchiel, c'est de dire que quand vous regardez la question de la justice, vous le faites à trop grande échelle. Dieu regarde à petite échelle, chaque élément pris pour lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une comptabilité, justement. C'est-à-dire que l'idée d'une balance, ce n'est pas la perspective divine. Façon de dire, l'idée de la balance, ce n'est pas la perspective que vous devriez adopter pour savoir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Chaque élément doit être pris de façon absolue. C'est-à-dire que l'idée d'un jugement dernier est complètement flinguée par Ézéchiel. À la fois jugement dernier comme jugement après la mort, que jugement qui ferait les totaux. Et on voit si vous êtes en positif ou en négatif. Il dit, à partir du moment où vous faites quelque chose qui est mal, c'est un mal absolu, et il faut faire quelque chose pour annuler cela. Il faut éponger toutes les dettes que vous contractez en quelque sorte, au fur et à mesure. Et il est envisagé qu'au fur et à mesure, il y ait cette teshuva, qui est cette conversion, qui est une annulation. Dans la perspective chrétienne, on parlera de pardon, en fait. Mais ici, c'est la repentance. La repentance, c'est de prendre conscience qu'on ne prend pas le bon chemin et qu'il faut se réorienter. Et donc, il me semble qu'Ézéchiel joue en permanence sur des discontinuités. C'est-à-dire que ce qui était une pratique communément adoptée s'avère être mauvaise. Parce qu'effectivement, vous voyez, je me tourne vers Jean-Claude parce que il y a des, je sais pas comment les appeler, des naturalistes, enfin des scientifiques qui observent l'écosystème et qui pourraient se dire, bah ouais, sur grande échelle, pas de problème, ça va. Mais sur petite échelle, on se rend compte qu'il y a une pure dérégulation et que cette dérégulation, en fait, obère la suite. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut intervenir. Oui, bien sûr, les glaciers sur des milliards d'années. Bon, bah, ok, la balance est correcte. Mais si on prend les 50 dernières années, l'Anthropocène, grosso modo, eh ben là, manifestement, il faut absolument que ça change. Bon, bah, Ézéchiel est sur cette perspective-là. François, l'autre.
Donc, nous quittions, on pourrait quand même s'attacher au verset 10 et 11 du chapitre
33. Oui. Oui.
Et toi, fils de l'homme, c'est ce que Ézéchiel dit tout à l'heure.
C'est
la maison d'Israël. Vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Ce qui veut dire que le peuple, en fait, est parfaitement conscient que, à cause de ses péchés et de ses transgressions, il mérite la mort. Et alors, il y a le verset 11 est un véritable retournement. Dis-leur, je suis vivant. Il n'y a pas je suis puissant, il y a je suis vivant, l'Éternel. Mm-hmm. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Donc il retourne la tête. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc, en fait, la perspective de mort est par la voix d'Ézéchiel, l'Éternel leur fait dire non, c'est pas ça, je veux pas votre mort. Mmh. Je veux que vous changiez. Et c'est ça, dans cette grande montée dramaturgique qu'il y a entre le chapitre 3 et le chapitre, il y a comme à la fin une sorte de retournement.
Oui.
C'est pas une menace, c'est une explication.
Ça avait déjà été présent d'ailleurs dans le chapitre 18, je veux pas la mort du méchant, mais plutôt sa conversion. Mais moi, j'entends aussi autre chose là-dedans. C'est qu'effectivement, le peuple a l'impression, le terme c'est pourrir. Le peuple a l'impression de pourrir à cause de son péché. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a l'impression que c'est fatal. C'est-à-dire que plus rien ne pourra changer. C'est-à-dire qu'il est sur la pente définitive. Enfin, c'est-à-dire qu'il a cédé au fatalisme. Et il y a une rupture, une discontinuité radicale d'Ézéchiel qui dit « Dieu, c'est Raï, c'est la vie. C'est même pas « je suis vivant », c'est « je suis la vie », en fait. Et il y a possibilité de réinjecter de la vie dans ce qui, pour vous, n'apparaît que comme une érosion inexorable, comme un pourrissement définitif. C'est-à-dire qu'il y a l'idée selon laquelle on peut, je disais tout à l'heure, se réorienter, on peut se convertir, on peut se repentir. Il faudrait trouver un terme plus contemporain pour que ce soit juste. On pourrait dire on peut sortir du tunnel. On n'est pas condamné à être au fond du gouffre en permanent, enfin je ne sais pas ce que vous voulez. Trouver une expression pour dire non, en fait, ça peut être autrement.
Oui, mais c'est la réponse de. Je crois que c'est la. Voici, j'ai mal devant toi.
Bien sûr, c'est Deutéronome 32. Il y a absolument cela, mais. Oui, absolument. Deutéronome 32, oui. Et avec cette idée que c'est possible, en fait. Alors que. Il y a peut-être une sorte de morosité qui gagne le peuple et qui considère qu'après la destruction du temple de Jérusalem, ben, il n'y a plus aucun avenir possible. Et qu'ils sont même condamnés à disparaître parce que l'État-nation disparaît. Et en fait, peut-être que le travail d'Ézéchiel et d'autres, c'est de considérer que ce n'est pas parce qu'un État-nation disparaît que notre être disparaît. Je veux dire, on le prend à une autre échelle toute modeste pour bien comprendre cela. C'est pas parce que le christianisme disparaîtrait que la foi chrétienne disparaîtrait en quelque sorte. C'est-à-dire que... Ah, ça vous semble pas évident. Bon, peut-être que je le prends à une étape plus petite. C'est pas parce que l'Église réformée de France a disparu que la réforme et les idées de la réforme ont disparu. Or, l'Église réformée de France, elle n'existe plus. Non, il y a l'Église protestante unie. Mais... tout ce dont nous étions porteurs demeure, et peut-être même est encore plus vivace. Et Israël peut disparaître en tant qu'État-nation, mais est-ce que nous, on n'est pas Israël aussi? Je ne dis pas qu'on soit plus authentique, mais est-ce qu'on n'est pas aussi Israël? Et est-ce qu'on n'est pas aussi peuple de Dieu?
C'est ce qui a fait la force des Juifs dans l'histoire, hein, ils n'ont pas disparu.
Mais est-ce que ce qui est important, c'est... les Juifs en tant qu'êtres distincts et identifiables par opposition à d'autres, ou est-ce que c'est l'être juif dont on peut être nous-mêmes porteurs? Au fond, c'est quoi le juif? C'est le Yehuda. Le Yehuda, c'est quoi? Il faudrait que je prenne un tableau, mais vous regarderez ça chez vous. Si vous l'écrivez en hébreu, c'est le tétragramme avec au milieu Dalet. Dalet, c'est l'équivalent du D du Delta. Dalet, c'est la porte. Et c'est quoi l'être juif? C'est être la porte sur le tétragramme. Si on est porte sur le tétragramme, on est juif. Ce qui est pas mal. Et la disparition de l'État-nation n'empêche pas cette possibilité-là. Alors là, je sais, c'est hyper libéral.
Okay. Où on trouve très clairement l'espérance de renaissance nationale d'Israël comme purification de Joseph et Judas.
Mais est-ce que dans ces deux morceaux qui vont être réunifiés, Ephraïm, Manassé, tout ça, ça ne concerne que deux populations qui... Ont-elles vraiment existé, d'ailleurs, ces deux tribus-là, telles quelles, telles que c'est raconté? Il faudra qu'on se prenne ces derniers chapitres d'Ézéchiel bien au sérieux. Parce que... on va les prendre à bras-le-corps, plus que ce que peut-être je pouvais imaginer. Mais oui, vous avez raison, il faut les prendre avec gravité même, peut-être. Parce que, de même que pour l'Apocalypse, avec la cité finale qui arrive, est-ce que c'est la restauration d'un État politique, peut-être même encore plus brillant que ce qu'il était avant la chute, ou est-ce que c'est, disons, une lecture plus spirituelle qu'il faudrait faire? Spirituelle, peut-être que c'est un peu trop euphémique. Mais la question, oui, c'est est-ce que ça pose les bases d'un nouvel ordre politique et d'un grand Israël politique ou d'autre chose? Bon. Ok. Vous êtes tous témoins qu'on n'esquivera pas la question. Ça va, ça marche? Mais ça veut dire qu'on est chacun amené à y réfléchir aussi. Hein. Comme ça, la dernière séquence qui est là-dessus, on apportera tous notre contribution et notre réflexion à cette question-là. Notamment, en plus, comme il y a beaucoup de chapitres, il faudra qu'on les ait lus à l'avance et qu'on ait des idées un peu précises. Moi, comme ça, pour annoncer un peu les choses, j'aurais tendance à montrer que ça ne parle pas d'une restauration d'un ordre politique historique. Mais ça sera à vérifier dans le texte. Ça vous va comme ça ?